terminé dans l'Épître aux Hébreux. Nous ne connaissons pas l'auteur, en tout cas il ne s'est pas nommé en l'écrivant, mais il était inspiré par l'Esprit de Dieu. La personne de Jésus-Christ est au centre de cette épître, et il y a un thème sous-jacent d'ailleurs, c'est la persévérance pour le chrétien, c'est-à-dire c'est une épître qui nous encourage à continuer avec le Seigneur. Donc comme les autres fois, je vais prendre dans le chapitre 12 et dans le chapitre 13 un verset, puisque je ne peux pas tout traiter, mais j'ai choisi à chaque fois le verset qui me touchait à ce moment-là. Tous les versets sont beaux, mais il faut bien choisir. Hébreux 12, on va regarder les premiers versets, versets 1 et 2. Hébreux 12, 1 et 2. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, qui nous aide à la comprendre. C'est la suite du chapitre 11, évidemment, où il a parlé de cette nuée de témoins. Tous ces hommes et ces femmes de foi, un certain nombre ont obtenu des victoires, d'autres ont été persécutés à mort, mais tous ont été des exemples de foi, de croyants qui, par la foi, avancent jusqu'à la fin et croient à la vie éternelle, croient même au-delà de la mort. La mort n'est pas la fin pour eux. Au contraire, c'est juste un saut, un passage pour la vie éternelle. Et puisque nous avons tous ces témoins qui nous encouragent dans la foi, eh bien, nous aussi, il dit, entrons dans la carrière. La carrière, là, c'est un mot qu'il utilise ici pour un mot un peu technique ou sportif. Entrons dans le stade. C'est ça un peu qu'il dit. Paul, apparemment, aimait bien le sport. En tout cas, il s'intéressait au sport. Je ne sais pas s'il en pratiquait lui-même. Il n'a pas eu trop le temps entre la prison, les naufrages, les persécutions et l'évangélisation. Il n'avait pas tellement le temps de faire du sport, mais il s'y intéressait beaucoup. Il y a beaucoup d'images de sport dans ses écrits, et peut-être que Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Peut-être, nous n'en sommes pas sûrs. En tout cas, ici c'est une image sportive. Entrons dans le stade. C'est un peu l'image de ces témoins-là qui courent dans le stade, ils font la course, vous savez, en rond. Et pour gagner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la persévérance. Voilà. Ce n'est pas un sprint, là, dont il est question, c'est une course de fond. Et dans la course de fond, tout se joue, non pas dans les jambes, mais dans la tête. C'est la persévérance. Et la vie chrétienne est une sorte de course de fond. Quand on accepte le Seigneur, c'est merveilleux parce qu'on découvre le pardon de nos péchés, on découvre qu'on a un Dieu merveilleux, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui nous aime, un Dieu extraordinaire, tout puissant. Mais on découvre aussi qu'il y a un chemin à faire. Le Seigneur ne nous reprend pas tout de suite, il ne nous emmène pas au ciel immédiatement. Il nous appelle à vivre sur cette terre, à être des témoins. Et en tant que témoins, on doit persévérer, on doit courir cette course. Alors, ce n'est pas forcément, encore une fois, une course de sprint, où ce n'est pas une compétition, je suis en train de courir, est-ce que lui il court plus vite que moi? Non, ce n'est pas une compétition, c'est est-ce que je vais arriver au bout, debout. Je suis frappé de voir dans certaines courses des marathons ou les courses de fond à ski aussi, certains coureurs qui arrivent à genoux. Je crois qu'il y avait un Kenyan il y a quelques mois, il était à 50 mètres de la ligne d'arrivée, c'était peut-être même une femme d'ailleurs, à 50 mètres de la ligne d'arrivée, et ses jambes ne la portaient plus, n'arrivaient plus. Et elle rampait vers la fin, jusqu'à ce que des spectateurs ont dit « c'est pas possible, on va pas la laisser ramper ». Ils sont venus la soulever et ils l'ont portée jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour moi, c'est un modèle de cette foi qui avance, qui persévère. Nous sommes dans une carrière et il y a des témoins. Qui sont les témoins? C'est les croyants du passé qui nous tendent le témoin. Vous savez, dans les courses de relais, il y a ce petit bout de bâton là. Allez, à toi maintenant. Et nous sommes dans cette course de relais avec nos frères et sœurs des temps passés. C'est bon d'étudier l'histoire de l'Église, hein, et l'histoire de la foi. L'histoire de la foi, elle est dans la Bible, et l'histoire de l'Église, elle est dans les livres d'histoire. Attention, pas tous les livres d'histoire ne décrivent la véritable histoire de l'Église. Hein. Il faut savoir faire le tri. Mais dans l'histoire de l'Église, combien d'hommes et de femmes sont morts pour leur foi, pour traduire la Bible, pour répandre la Bible, hein. Malheureusement, c'est l'Église catholique qui a tué le plus de chrétiens. C'est impensable que c'est l'Église chrétienne qui a tué le plus de chrétiens. Mais c'est comme ça dans l'histoire. Ces chrétiens qui voulaient annoncer la bonne nouvelle, qui voulaient que les gens connaissent la Bible et soient sauvés, eh bien, beaucoup l'ont payé de leur vie. En France en particulier, hein, beaucoup de huguenots, de protestants, ont été massacrés. À Paris, il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants ont été assassinés, massacrés sur place, dans les rues de Paris, sous l'ordre du roi Charles IX et de Catherine de Médicis. Et ces frères et sœurs ont payé de leur vie pour que la foi continue, et ils nous passent le témoin. Et nous, on doit prendre ce témoin et on doit le passer à nos jeunes. Hein. On ne doit pas juste dire, ça y est, c'est moi qui finis la course. On ne sait pas si c'est nous. Peut-être que c'est nous qui finirons et nous serons enlevés avec le Seigneur de notre vivant. Mais peut-être qu'il y a encore une génération, et c'est sûr qu'il y a une génération là, qui est après nous. Il faut leur passer le témoin. Alors, il faut courir. Mais il y a deux obstacles là dans nos pieds, c'est... Quels sont les deux obstacles que vous voyez dans ce verset 1 ? Je vous fais participer. Le péché et les fardeaux. Voilà. Le péché et les fardeaux. Les fardeaux, c'est l'idée de quelque chose de lourd, de volumineux. Imaginez qu'on vous demande de faire une course et on vous dit tu vas mettre une armure du Moyen Âge pour courir, vous savez les armures métalliques là qu'ils avaient. S'il vous plaît, non, je ne veux pas. Je préfère aller en short et en t-shirt, mais pas en armure. Mais il y a des chrétiens, au lieu de courir léger, au lieu de courir dans la carrière comme le Seigneur le demande, ils ont plein de fardeaux dans leur vie qui les empêchent d'avancer. Il y a des bons fardeaux et des mauvais fardeaux dans la Bible. Les bons fardeaux, c'est quand Dieu met un fardeau sur notre cœur de prier pour quelqu'un, d'évangéliser quelqu'un, d'aider un frère ou une sœur. Ça, c'est un bon fardeau. Hein. La Bible dit porter les fardeaux les uns des autres. Mais il y a les mauvais fardeaux, ceux qu'on ne devrait pas porter. Les soucis, par exemple, exagérés. Tout le monde a des soucis, hein. On a tous des problèmes, des difficultés, des maladies, des empêchements, des obstacles. On a tous ça, plus ou moins fort. Mais quand ces soucis m'empêchent de courir, il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a plusieurs promesses dans le Nouveau Testament de ne pas se laisser alourdir par les soucis. Il dit « Déchargez-vous sur moi de vos soucis ». C'est ça que Dieu dit. Donc quand on a un souci, ça ne doit pas nous arrêter dans la foi chrétienne ou dans le service chrétien. On ne doit pas se dire « Oh là là, de toute façon, moi je ne peux plus rien faire, je ne peux plus prier, je ne peux plus parler, je ne peux plus prier, témoigner, j'ai trop de soucis. » Mais mon frère, ma sœur, tu n'as pas compris que Dieu veut s'occuper de tes soucis pour que tu sois libre de courir dans la carrière, dans le stade, que tu sois libre d'annoncer l'Évangile. On doit décharger nos soucis. J'ai un problème, Seigneur, je te le remets. Je ne sais pas comment tu vas le régler, mais je te fais confiance. Tu vas le régler, parce que tu es un grand Dieu. Et c'est ça la foi chrétienne. Si la foi ne nous permet pas justement d'être délivrés de nos fardeaux, alors qu'est-ce que c'est cette foi ? Et on ne doit pas s'encombrer de choses. Parfois, on s'encombre aussi de trop de choses matérielles. On est matérialiste. Et ces choses matérielles nous empêchent de voir le salut des âmes, de voir le Seigneur. On a tellement de choses devant les yeux et il faut savoir s'alléger dans la vie. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, dit l'Écriture. Mais en plus des fardeaux, il y a les péchés. Et il dit, hein, les péchés qui nous enveloppent si facilement, c'est-à-dire qui se mettent dans nos jambes. Là encore, imaginez quand on vous mette... des fils dans les jambes, hein, plusieurs cordes là entre les pieds. On dit maintenant tu cours. Je ne vais pas aller très loin, je vais me prendre les pieds dedans, je vais tomber. Et le péché, c'est vraiment ce piège-là. Ça nous fait chuter à chaque fois. Et chaque fois qu'on chute, on n'est plus en train de courir. On est en train de se décourager, on se fait mal hein, quand on chute. Et le Seigneur ne veut pas qu'on se prenne les jambes dans le péché. Il ne veut pas qu'on se laisse avoir. Il veut qu'on arrête de chuter. Dans l'épître de Jude, Dieu déclare à celui qui peut vous préserver de toute chute. Dieu peut nous préserver de toute chute. On n'est pas obligé de chuter dans la vie chrétienne. C'est une vérité méconnue et négligée, parce que c'est bien pratique pour nous de dire, de toute façon, je peux chuter, je suis pécheur. Donc, là, la tentation, je la laisse venir, je tombe, je suis pécheur. Qui est parfait sur la terre? Est-ce qu'il y a un juste? Non. Donc, moi aussi, le Seigneur, de toute façon, quand j'irai lui demander pardon, il va me pardonner. Si on avance dans la vie chrétienne avec cette attitude-là, ce qui est parfois le cas, hein, nous sommes assez tordus hein, en tant qu'êtres humains pour faire ça, c'est qu'on est en train de mépriser la grâce de Dieu et le sacrifice du Seigneur. Le Seigneur est mort sur la croix et il est ressuscité pour ôter le péché. Il a dit, hein, je suis venu ôter. Péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché et nous préserver de toute chute. On ne peut pas être parfait sur la terre, ça c'est clair. Hein? La perfection, ce sera dans la gloire de Dieu. Mais par contre, on peut ne pas chuter. À chaque tentation, on peut trouver la force en Dieu de dire non. Alors, il y a des chrétiens qui vont très loin en disant, oui, moi, ça fait 12 ans que je n'ai pas péché. Personnellement, je ne me vanterai pas d'une chose pareille parce que ça m'étonnerait. Et c'est Spurgeon, quand il a entendu ça, le pasteur anglais du 19e siècle, il a dit « Présentez-moi ma femme et votre femme et je vais voir si elle dit la même chose que vous. Hein? Ça fait 10 ans que je n'ai pas péché. On va voir si votre femme est d'accord. » Quelqu'un qui vit avec vous, il va dire « Non, il a péché. » Mais néanmoins, le Seigneur veut qu'on court sans s'arrêter, qu'on avance. Sans être toujours en train de chuter. Qu'est-ce qui se passe quand on est toujours en train de chuter? C'est qu'on n'a pas saisi la délivrance en Jésus-Christ. C'est que le péché a trop de pouvoir sur nous. Et ce n'est pas normal. Si le Seigneur nous a lavés, délivrés, ce n'est pas pour qu'on continue dans le péché. C'est pour nous en sauver, nous en sortir. Et sur la terre déjà. Pas simplement dans la vie éternelle. On dit, ah oui, dans la vie éternelle, là. Non, mais sur la terre, ça commence sur la terre. La délivrance. Le Seigneur ne veut pas qu'on continue à pécher, qu'on soit esclave du péché. Et si j'ai un péché, eh bien je dois le confesser à Dieu. Dieu nous appelle à avoir une conscience pure en permanence. La confession des péchés est très importante, non pas à un homme, un pasteur, un prêtre, mais à Dieu. De dire au Seigneur, voilà, j'ai fait ce péché, j'ai commis cela pour en être libéré, délivré. Nous devons courir sans les fardeaux qui nous gênent, sans le péché qui nous fait tomber, et nous devons avoir les regards sur Jésus. Un bon coureur, il a les yeux sur la ligne d'arrivée, sur le but. Est-ce que vous avez déjà vu des coureurs regarder derrière et gagner une course? Non. Si vous regardez derrière, vous allez tomber. Si vous regardez sur le côté en courant, vous allez courir, mais pas aller très loin. Il faut regarder devant. Et devant, c'est notre modèle, c'est Christ. Dans ce passage, il présente Christ d'une façon particulière. Il dit, voilà, il y a tous les témoins de la foi du chapitre 11, Moïse, Abraham, des hommes extraordinaires, mais il y a aussi le Seigneur Jésus en tant qu'homme. Il est le modèle suprême. C'est pour ça qu'il dit le chef. Alors dans les vieilles versions, c'est le chef et le consommateur de la foi. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, le consommateur de la foi. Un consommateur, c'est quelqu'un qui achète des denrées au magasin. Donc, ma version plus modernisée a celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans l'original, c'est le prince de la foi, le chef de la foi, et celui qui l'a vécu d'une façon parfaite et qui... Alors, il y a les deux sens, ou qui l'amène à la perfection pour nous. C'est-à-dire que quand je regarde à Christ, j'apprends ce que c'est la vraie foi. Christ avait la foi. On n'y pense pas toujours, hein, en tant qu'homme. Il marchait continuellement par la foi, dépendant de son Père. Souvent, il dit, hein, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père m'a dit, voilà, moi, je ne vais pas plus loin que ce que le Père me dit de faire. Il avait cette foi dans le Père, en tant qu'homme, en tant que fils. Il se mettait, voilà, soumis au Père. Il marchait dans la foi. Et il avait cette confiance. Quand il y a eu la tempête, vous vous rappelez sur le bateau, sur le lac de Galilée, les tempêtes sur les lacs sont terribles. Parce que les tempêtes sur les lacs arrivent comme ça en 10 minutes et ça peut même créer des tourbillons. Dans le lac Léman, il est connu qu'il y a, en jour de tempête, des tourbillons qui avalent les bateaux. Hein. Ça tourne comme dans un lavabo. Hein. C'est des tempêtes terrifiantes. Et qu'est-ce que Jésus faisait pendant la tempête? Il dormait. Il dormait. C'est-à-dire, c'est même pas qu'il était là assis, il dormait. Quand un bateau bouge dans la tempête, c'est dur de dormir. Hein. On est malade, on est... Et surtout, on a peur. Mais lui, il avait cette paix parfaite. Il savait que ce n'était pas son heure. Il savait que le Père veillait sur eux. Il savait que c'était qu'il n'allait pas mourir à ce moment-là. Bien sûr, nous, on n'a pas l'omniscience du Seigneur. On ne peut pas... S'il y a une tempête et je suis sur un bateau, je veux dire, oui, c'est peut-être mon heure, là. Je vais avoir peur. Mais... C'est pour montrer à quel point il avait cette foi parfaite, cette dépendance. Il aurait pu, en tant que Messie, dire « mais maintenant je vais faire ce que je veux, tiens, je vais... » Non, il a toujours obéi au Père. Le diable a voulu le faire chuter dans ce sens. Quand il l'a tenté, il a dit « saute hein, !» ou « change les pierres en pain !» Et Jésus dit « non, je ne ferai pas ça, parce que ce n'est pas la volonté du Père pour le moment. » Nous devons apprendre à avoir cette foi parfaite du Seigneur, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu dans les pires situations et de lui obéir aussi. Dans la foi, il y a l'obéissance. On chante souvent ce cantique « croire, obéir ». La foi, ce n'est pas simplement avoir un sentiment envers Dieu. La foi, c'est « Seigneur, je veux te suivre ». Et là, on doit courir en suivant et en regardant au Seigneur, notre modèle parfait. Un chrétien, il doit ressembler à qui? Il doit ressembler à Christ. C'est notre modèle. Comment parlait-il? Comment agissait-il? Comment faisait-il? Comment se comportait-il? Nous devons lui ressembler le plus possible. Cet autre cantique qu'on aime bien, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Ce n'est pas pour rien qu'on chante ça. C'est qu'on veut vraiment lui ressembler. Plus on est près de lui, plus on lui ressemble d'ailleurs. Les yeux sur Jésus. Il a montré le chemin de la foi par son renoncement à sa volonté, en disant non pas ma volonté mais la tienne, par son obéissance, par son sacrifice. Et il dit ici aussi en acceptant la honte. En échange de la joie, il a souffert la croix. Ça aussi c'est le modèle de la foi. C'est que parfois, si nous sommes chrétiens, nous allons souffrir des persécutions, souffrir une honte. Il y a une honte à être chrétien. À être chrétien engagé. Si vous dites « j'aime le Seigneur, Jésus c'est mon sauveur, je vais à l'église 3 fois par semaine », ce n'est pas bien vu dans la société. Vous êtes un fanatique, vous êtes un fondamentaliste, vous êtes je ne sais pas quoi. Et il y a cette honte attachée à la foi au Seigneur, à l'amour pour le Seigneur. Mais peu importe, on est dans la joie de suivre le Seigneur. Et on est prêt à subir cela comme le Seigneur l'a subi. Alors, est-ce que vous voulez courir aussi dans le stade, prendre le témoin qui vous est tendu et le passer à d'autres? Je pense aussi donc à la jeunesse. Ils ont besoin de témoins plus âgés qui leur disent « voilà, c'est à toi maintenant, je vais t'accompagner quelques mètres ». Quand on regarde les courses de relais, celui qui tend le bâton, le témoin, comme on dit d'ailleurs, il court encore un petit peu derrière, pour ne pas, il ne s'arrête pas brusquement. Et je pense que c'est ça aussi, quand on passe le témoin, on doit accompagner. Et puis, maintenant, c'est à toi. Sois un témoin. Le dernier verset que nous verrons, c'est dans le chapitre 13. Et le verset 8, qui est une sorte de conclusion de l'épître. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi écrit-il cela? C'est à cause de la persévérance en partie. La société change. Les hommes changent. Nous changeons. Pas toujours du bon côté. Mais Christ ne change pas. Les églises changent. La doctrine change, malheureusement. Il y a des fausses doctrines qui arrivent. Il y a moi, j'étudie ça de près. Je vois les mouvements dans les églises. Là, il y a un basculement vers l'homosexualité, de plus en plus, dans les églises évangéliques, pour accepter l'homosexualité pleinement, sans aucune condition ou aucun problème. Et puis, il y a d'autres formes d'apostasie ou d'éloignement de la doctrine, de la foi. Et c'est bouleversant. Il y a certains chrétiens évangéliques qui ont dit, je pense à John Nelson Darby, par exemple, ou en Californie, c'était Harold Camping, qui disait que l'Église a failli, donc il ne faut plus aller dans une église. Donc, par exemple, ce directeur d'une radio californienne disait, n'allez plus à l'église le dimanche. Réunissez-vous à la maison, parce que l'église est en faillite, l'église c'est une apostasie totale, c'est la fin des temps. Christ va revenir, et il a fait plein de fausses prophéties sur le retour de Christ, sur des dates du retour de Christ. Et il a entraîné des milliers de gens, parce qu'il avait plusieurs stations de radio en Californie. Et il y a plein de gens qui l'ont suivi dans le trou, dans le fossé. Ce n'est pas parce que les églises changent, que le monde change, qu'il faut arrêter d'aller à l'église. Il faut garder l'église. Il faut continuer d'aller à l'église et veiller sur son église, veiller sur la foi, lire la Bible, prêcher la Bible, tenir ferme pour la Bible. Et si son église ne tient plus ferme pour la Bible, il faut aller dans une église qui tient ferme pour la Bible. Mais Christ, lui, ne change pas. Il est le même. Il ne va pas un jour dire, écoute, finalement, je ne te sauve plus. Ou finalement, je ne t'aime plus. Finalement, je te laisse tomber. Finalement, je ne suis plus le Messie. Ce qui est terrible chez les théologiens, c'est qu'il y a de plus en plus de théologiens, depuis le 19e siècle, qui disent que Jésus n'est pas vraiment mort pour nos péchés. D'ailleurs, il n'est peut-être même pas ressuscité. Dans les évangiles, il faut faire le tri. Il y a ce que les hommes ont écrit et ce qui s'est vraiment passé. Jésus, c'était un homme extraordinaire, mais ressuscité, là, c'est quand même un peu... Donc, vous avez des théologiens qui écrivent des livres là-dessus. Ensuite, les pasteurs qui ont lu leurs livres, ils prêchent ça dans leurs églises et c'est enseigné et ça se répand. Mais Christ n'a pas changé. Il est le Messie, il est le Sauveur, il est mort, il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, l'Écriture est claire. Et nous, on doit rester fixés sur Christ. On ne doit pas suivre les modes. Il y a des modes, vous savez, dans le christianisme évangélique. Il y a des modes. Ça va être la mode de la musique. Alors là, c'est la louange. Donc, depuis, je ne sais pas combien d'années, la louange. Alors c'est merveilleux, la louange, c'est biblique, ça fait partie de la foi, de l'adoration. Mais si tout est dans la louange... on est déséquilibré. La Bible est un livre d'équilibre. La foi est quelque chose de parfaitement mesuré, équilibré. Donc, il y a la louange, il y a le service, il y a la parole de Dieu, il y a l'enseignement, il y a la doctrine et il y a l'adoration. Tout ça doit être harmonieux. Mais si c'est 2 heures de louange et un message biblique de 10 minutes ou 15 minutes, les chrétiens ne vont pas être nourris, enseignés, il va manquer quelque chose. Si on a 5 minutes de louange et ensuite c'est une étude de 3 heures, c'est pareil, les chrétiens vont être secs. Ils vont avoir une tête comme ça et un cœur tout petit. Il faut qu'il y ait tout dans l'Église. Mais il ne faut pas suivre les modes. Il faut faire attention aux livres chrétiens qui lancent des modes. Ça c'est un best-seller, ils l'ont traduit en 50 langues, il faut le lire, il faut le suivre, c'est ça. Je pense à Rick Warren, par exemple, ses livres qui citent la Bible d'une façon vraiment pernicieuse. Il prend des versions de la Bible qui vont dans le sens de ses idées et il tord les Écritures, alors que c'est quelqu'un de connu, quelqu'un d'apprécié par beaucoup, très influent, Rick Warren, aux États-Unis et dans le monde. Mais il a une façon d'utiliser la Bible qui est vraiment pernicieuse. Il faut être extrêmement vigilant sur ces choses-là. Mais Christ ne change pas. Alors, si je regarde à Christ, je ne vais pas me tromper. Si je regarde au Seigneur qui est dans la Bible, attention, pas le Christ que moi j'imagine, le Christ de l'Épître aux Hébreux notamment, qui est au-dessus des anges, qui est le Seigneur, qui est le sacrifice suprême, qui est mon souverain sacrificateur qui meurt pour moi et qui donne sa vie, qui m'apporte le pardon une fois pour toutes. C'est à lui que je dois regarder, pas à moi, pas à mes œuvres, pas à mon église ou à ma dénomination, je ne sais, mais à Christ. Et plus le temps passe, plus on doit s'attacher à Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, il intercède continuellement. Il ne va pas s'arrêter en disant « bon, maintenant, j'en ai marre, je suis fatigué ». Le Seigneur, éternellement, est notre sauveur, notre frère même, quelque part, hein, il est appelé notre frère si nous sommes croyants, et nous allons vivre éternellement avec lui. Alors persévérons dans la foi, dans le service pour Dieu, dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour les frères. Ne nous laissons pas déstabiliser par ce monde qui est très instable. Et c'est vrai, c'est troublant hein, de voir tous ces changements dans la société, mais il faut être solide. Quand on construit sa vie sur les paroles de Christ, on a construit sa vie sur le roc. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu veut les croyants, des croyants de rocher, hein, de, je ne sais pas comment dire, solide en tout cas, fondé sur le roc, et pas la musique roc, hein, sur le rocher qui est Jésus-Christ. Il y avait cette dame qui aimait beaucoup le Seigneur et qui, à la fin de sa vie, a été atteinte d'une grave maladie. Et les gens venaient la voir à l'hôpital. Et puis, chaque fois, c'est elle qui encourageait les autres qui venaient la voir en citant la parole de Dieu, en parlant de Christ. C'est une personne qui aimait parler de Christ. Et donc, il y avait toujours un verset, toujours quelque chose, un chant. Et puis, plus ses forces diminuaient, moins elle avait la force de parler. Et elle essayait de parler de Christ, mais c'était de plus en plus dur. Jusqu'à la dernière heure de sa vie, tout ce qu'elle pouvait dire, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et elle répétait Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et ceux qui l'ont visitée étaient un peu troublés. Elle dit, mais elle perd la tête ou qu'est-ce qui lui arrive? Elle répète. Mais c'est comme si sa vue hein, diminuait et puis sa vue se concentre. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que je vais aller au ciel? Est-ce que c'est parce que j'étais dans une église baptiste? Parce que j'étais un bon chrétien toute ma vie? C'est Jésus-Christ qui me fait aller au ciel. Quand je vais arriver à ma dernière heure, à quoi je vais me raccrocher? C'est à Jésus-Christ. Voilà. Et quand je suis dans l'épreuve la plus dure, qu'est-ce qui va m'aider? C'est Jésus-Christ. Quand je suis culpabilisé par Satan hein, qui m'attaque et me dénonce, qui me défend? Qui est mon avocat? C'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que le Seigneur nous garde les yeux fixés sur lui. Amen. On peut chanter, il y a d'autres strophes de persévère.